Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus-Christ selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique pour le deuxième dimanche de Pâques. C'est donc le soir, ce premier jour de la semaine. Les portes ayant été verrouillées, là où se trouvent les disciples par crainte des Juifs. Jésus vient, et, se tenant debout au milieu d'eux, il leur dit
« Shalom, paix à vous ».
Cela dit, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont alors remplis de joie à la vue du Seigneur. Jésus leur dit donc de nouveau
« Shalom, paix à vous ». De par le Père qui m'a donné mission, moi aussi je vous donne mission.
Cela dit, il insuffle en eux et dit
« Recevez un souffle spirituel de sainteté. Si de certains vous remettez les péchés, ils leur sont remis. Si de certains vous les retenez, ils sont retenus. »
Thomas, l'un des 12, appelé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus est venu. Les autres disciples lui disent
« Nous avons vu le Seigneur. »
Mais celui-ci leur dit
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et ne place pas mon doigt à l'endroit des clous, et ne place pas ma main dans son côté, sûrement je ne croirai pas. »
8 jours après, ses disciples sont de nouveau à l'intérieur, et Thomas est avec eux. Jésus vient, les portes ayant été fermées, et se tenant debout au milieu, il dit
« Shalom, paix à vous. »
Puis il dit à Thomas
« Porte ton doigt ici et vois mes mains. » Porte ta main et place-la dans mon côté. Cesse d'être incroyant, mais croyant.
Thomas répond et lui dit
« Mon Seigneur et mon Dieu !»
Jésus lui dit
« Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. »
En présence de ses disciples, Jésus a fait encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez vie en son nom.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien voilà, on pourrait dire un des textes clés de l'Évangile, un texte fondamental au sens le plus fort de ce terme, un terme qui dit le fondement de la foi chrétienne, ce sur quoi les chrétiens appuient leur foi, et cela depuis 2000 ans.
Georges, pour commencer la compréhension du récit, où ce texte se situe-t-il dans le récit de Jean?
Eh bien, notre récit se situe au soir du grand jour de l'histoire humaine, le jour marqué des premières manifestations de Jésus ressuscité. Ce jour, qui est bien sûr le premier de la semaine juive, peut être aussi considéré comme le 8e jour, c'est-à-dire le jour marqué par la résurrection qui anticipe les derniers temps où la création sera enfin pleinement achevée. Les chrétiens vont appeler ce 8e jour le jour du Seigneur, dies dominica en latin, qui a donné par contraction dimanche. Eh bien, le matin de ce jour, des femmes, puis Pierre et le disciple préféré, ont fait la découverte du tombeau vide. Jésus va apparaître à Marie de Magdala, à qui il confie ce message, « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. » Et le soir, alors que les disciples sont réunis, eh bien Jésus vient vers eux pour leur donner mission. Et ce sera encore 8 jours après que le ressuscité se fera voir à Thomas. Alors pourquoi ces 8 jours? Eh bien, peut-être pour 2 raisons. D'une part, parce que le deuil durait 8 jours, mais aussi peut-être parce que on verra là l'indice que les premiers chrétiens se réuniront chaque 8e jour, chaque dimanche.
Cela dit, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont alors remplis de joie à la vue du Seigneur.
Oui, pour bien comprendre ce qui va se vivre en cette soirée, il nous semble qu'il faut nous rappeler le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Il leur avait fait alors une promesse. « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens à vous. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. » Le départ de Jésus vers le Père ne signifie donc pas pour lui un abandon de ses disciples. Bien au contraire, une fois monté vers le Père, Jésus va se trouver en communion avec ses disciples, et une communion encore plus parfaite que celle qu'il a vécue jusqu'alors. Écoutons-le.
Vous l'avez entendu, je vous ai dit que je m'en vais et que je viens à vous. Si quelqu'un garde et vit ma parole, le Père et moi, nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure.
Alors comment comprendre cette présence de Jésus et du Père? Eh bien, cette présence se réalise par une communion d'agir. Une communion qui va se situer dans ce que la Bible appelait le cœur, c'est-à-dire le lieu intime où se décident les choix qui nous font vivre. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? L'éducation, c'est un long apprentissage de manière d'être et d'agir. Depuis notre enfance, nous avons appris à manger, à marcher, à parler. Et ces apprentissages se sont imprimés dans notre mémoire. Jésus, lui, a longuement éduqué ses disciples. Il les a éduqués en leur apprenant à agir selon les manières divines. Ce que j'ai appris du Père, je vous l'ai fait connaître.
Quelles sont les manières de Dieu?
Eh bien, peut-être qu'elles se résument par cette phrase de Matthieu, « Soyez parfaits comme votre Père est parfait », que Luc d'ailleurs traduit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Ces manières d'être de Dieu sont celles de l'amour et de l'amour dans sa perfection, c'est-à-dire la miséricorde, la gratuité, le pardon. Garder la parole de Jésus, vivre de cette parole de Jésus, c'est apprendre à aimer comme le Père. Celui qui fait vivre la parole dans sa vie quotidienne, celui-là va imprimer dans la mémoire de son cœur les paroles et les gestes qui font agir à la manière du Père. Et en agissant selon l'Esprit de Dieu, en reprenant les façons d'être et d'agir du Père, le disciple vit de la vie même du Père, il va vivre divinement et il permet donc au Père de demeurer en lui. Il ouvre son être intime à la présence de Dieu. Jean traduira cela simplement, il vit. Il vit, mais d'une vie identique à celle du Christ.
Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Qui n'aime pas demeure dans la mort. Le monde ne me voit plus, mais vous, vous me voyez parce que moi, je vis et que vous, vous vivez. En ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi et moi en vous.
Je vis et vous, vous vivez. Cette perception de la communion intime qui unit les disciples à Dieu et à Jésus, voilà ce qui met dans leur cœur la joie pleine qui leur a été promise. Je vous verrai, votre cœur se réjouira. Mais il faut tout de suite ajouter que cet enfantement à la vie véritable, à la vie éternelle, eh bien, elle va se faire pour les disciples de la même manière qu'elle s'est faite pour Jésus.
Nous connaissons ce que c'est qu'aimer, en ce que Jésus a livré sa vie pour nous, et que nous devons livrer notre vie pour nos frères.
Nous devons livrer notre vie pour nos frères. Si notre récit, en effet, associe la joie des disciples à la vue des mains qui portent la marque des clous, à la vue du côté qui a été percé par la lance, il me semble que c'est pour signifier que Jésus est passé, bien sûr, de la mort à la vie d'éternité, mais qu'il y est passé à travers le don d'amour qui l'a cloué sur la croix. Toute la vie de Jésus, jusqu'à l'extrême moment de la croix, est un enfantement à la vie d'éternité. C'est un enfantement qui n'est certes pas sans douleur, mais qui conduit à la vraie vie. Il s'en était d'ailleurs expliqué par cette belle comparaison.
Lorsque la femme enfante, elle est affligée. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant où elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie de ce qu'un être humain est venu au monde.
En effet, livrer sa vie est l'ultime geste de l'amour et il conduit à la vie éternelle, une vie qui trouve pour toujours son souffle dans le souffle même de Dieu, dans le souffle même de Jésus. Thank you.
Il leur dit « Paix à vous ». Que signifie cette salutation?
Mais dans la langue juive, « shalom », qu'on traduit par « paix à vous », c'est l'équivalent de notre « bonjour ». Et on pourrait peut-être s'étonner que cet homme qui revient de la mort ne trouve rien d'autre à dire que « bonjour ». En effet, de quelqu'un qui est aux portes de la mort, nous attendons, nous, déjà des paroles fortes, un testament. Alors, de celui qui revient de la mort, combien plus peut-on en attendre? Mais ce souhait n'est peut-être pas dit ici avec banalité. Non seulement il est répété, mais il va être expliqué par un geste peu habituel, une insufflation. Il est en effet pas très ordinaire d'insuffler son propre souffle dans la bouche de quelqu'un. Nous le faisons pourtant pour redonner le souffle à ceux qui viennent de le perdre, ce que nous appelons la respiration artificielle, le bouche à bouche. Cette insufflation peut, en effet, redonner le souffle, redonner la respiration à celui ou à celle qui l'a perdu. Cette insufflation fait revivre. Eh bien, dans le premier livre de la Genèse, dans le premier livre de la Bible, la Genèse, c'est le même verbe insuffler qui est d'ailleurs employé pour décrire la création de l'être humain.
Dieu façonne l'humain, glaise de la terre, il insuffle une haleine de vie dans ses narines et il devint un être vivant.
Le verbe est encore repris dans le livre de la Sagesse pour décrire celui qui se tourne vers des dieux qui sont des idoles.
Il ignore celui qui l'a façonné, qui a insufflé en lui un souffle spirituel qui fait vivre.
On va retrouver la même idée dans le livre du prophète Ézéchiel pour décrire la promesse de Dieu à son peuple Israël alors que ce peuple est en exil loin de sa terre. Ézéchiel compare ce peuple exilé à un immense amas d'ossements desséchés.
Je prononçai l'oracle de Dieu, souffle, souffle dans ses morts et qu'ils vivent. Le souffle entra en eux et ils reprirent vie.
Eh bien, ici, de quelle création peut-il s'agir avec Jésus? Jésus va l'expliciter. Aussitôt qu'il insuffle son souffle dans les disciples, il leur dit « Recevez un souffle spirituel de sainteté ». Dans la Bible, et tout spécialement dans le récit de Jean, il y a un lien fort entre la parole et le souffle spirituel. On se souviendra du commentaire fait par Jésus après le repas des pains multipliés. Le pain multiplié, c'est le symbole de la parole qui a été longuement partagée par Jésus aux foules. Il leur dit « C'est le souffle spirituel qui rend vivant, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites, ce sont des paroles qui sont souffle spirituel et vie. » À la Samaritaine, Jésus d'ailleurs avait dit
« Si tu savais qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui l'en aurais prié, il t'aurait donné de l'eau vive. »
Or, qu'est-ce que l'eau vive? Eh bien, c'est le symbole du souffle spirituel de Dieu.
Jésus s'écria « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Selon l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il dit cela du souffle spirituel que devaient recevoir ceux qui mettraient en lui leur foi.
Oui, la parole de Jésus n'est pas seulement faite de mots. Elle donne un souffle spirituel à ces mots pour que ce souffle spirituel fasse vivre ceux qui accueillent sa parole. Cette parole, c'est une parole vécue, chargée d'une expérience, une parole pesante de vie.
Pourquoi Jésus insuffle-t-il un souffle spirituel de sainteté à ses disciples?
Eh bien, parce qu'il leur donne une mission. Alors, quelle est cette mission?
De par le Père qui m'a donné mission, moi aussi je vous donne mission. Si de certains vous remettez les péchés, ils leur sont remis. Si de certains vous les retenez, ils sont retenus.
Le vocabulaire « remettre »,« retenir » évoque un langage juridique, qui est celui d'exclure ou d'admettre. Il était employé dans la communauté de Qumran, qui était une secte juive à l'époque de Jésus, pour sanctionner celui qui avait commis une faute grave. Celui-là, celle-là, étaient exclus, soit temporairement, soit définitivement, de la communauté. Il y a une semblable discipline qui s'instaurera d'ailleurs dans les communautés chrétiennes, surtout au moment des persécutions envers ceux qui auront renié la foi et que l'on excommuniera pendant un temps puis que l'on réintroduira dans la communauté. Mais retenir, remettre, est aussi un vocabulaire qui évoque l'an de grâce. Alors qu'est-ce que c'est que l'an de grâce? Eh bien c'est cette année jubilaire que le Lévitique prévoyait tous les 50 ans, et où Dieu et ses fidèles effacent toute dette, et l'effacent sans mettre aucune condition. On retrouve ça dans le chapitre 25 du Lévitique. Au début du récit de Luc, d'ailleurs, Jésus avait défini sa mission comme la proclamation de l'an de grâce. Eh bien voilà donc, il me semble, la mission qui est confiée désormais aux disciples par Jésus. Créer tout au long de l'histoire, l'an de grâce. Il leur transmet un souffle spirituel pour qu'eux aussi transmettent ce souffle spirituel, un souffle qui va pardonner, recréer, faire de chacun et de chacune un être nouveau. Ézéchiel avait écrit « Je mettrai mon souffle en vous, dit Dieu, pour que vous viviez. » Eh bien, en ce jour unique de l'histoire humaine, en ce huitième jour, un être de notre race humaine réalise la promesse faite par Dieu et retranscrite par le prophète Ézéchiel. « Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez. » C'est parce qu'il est en communion parfaite avec le Père. C'est parce qu'il a vaincu le mal en son cœur. C'est parce qu'il a sauvegardé l'amour en son cœur, parce qu'il est vivant pour toujours de la vie divine, que Jésus est porteur de ce souffle de vie et d'amour pour tout être humain qui veut bien l'accueillir et qu'il pourra ainsi le pardonner et le recréer. Le pardon, en effet, n'est pas l'oubli de la faute ou son excuse, il est le don d'un souffle de vie et d'amour qui peut guérir le cœur de celui qui a fait mal. Et celui qui accueille ce souffle de vie devient à son tour capable de le transmettre à son prochain. C'est à toute la communauté des disciples qu'il est demandé de transmettre le pardon de Dieu. Bien plus, chaque disciple ne peut accueillir en vérité le souffle divin de l'amour que s'il se rend disponible à le communiquer à ceux qui vont se trouver à ses côtés. Pardonne-nous comme nous pardonnons, c'est la prière que Jésus a confiée à chacun de ses disciples. Le Talmud, d'ailleurs, disait déjà
« Pour celui qui fait preuve de compassion à l'égard de son prochain et pardonne le mal qu'on lui fait, le ciel est miséricordieux. »
Faire rayonner cet amour divin qui sans cesse recrée notre être et le recrée pour en faire un cœur aimant, voilà la tâche, la mission que Jésus confie désormais aux siens comme le Père la lui avait confiée. La communauté des disciples devient comme le prolongement de Jésus lui-même à travers l'histoire. Paul parlera des chrétiens comme étant le corps du Christ, il est la tête et ils sont les membres. Jésus avait déjà parlé de vigne, il est le tronc et ses disciples sont les sarments. La mission confiée par le Père n'a pas d'autre but que de sauver chaque être humain par l'amour.
Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui.
Remarquons-le bien, le Fils n'est pas venu d'abord pour nous expliquer des vérités philosophiques. Il est venu pour transmettre la force d'amour du pardon qui refait, qui recrée chaque être humain pour le rendre lui aussi aimant et miséricordieux. Paul, dans la lettre à Tite, traduit bien cela.
Lorsque se sont manifestées la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains, il nous a sauvés. Non en vertu d'actions que nous aurions accomplies nous-mêmes droitement, mais en vertu de sa miséricorde, par un bain de renaissance et de renouvellement que produit l'Esprit Saint.
Et cette mission ne se limite pas aux frontières de la communauté des disciples, aux frontières de l'Église. Elle est une mission sans frontières pour l'humanité tout entière. Le chrétien est porteur de l'amour de Dieu pour tout être humain dont il doit se faire le prochain, comme le dit si bien la parabole du bon samaritain.
Lequel s'est montré le prochain de l'homme qui est tombé aux mains des bandits? C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui.
La bonté que Jésus nous donne de vivre nous demande de partager avec celui, avec celle qui est dans le besoin. Besoin de pain, besoin de soins, besoin de travail, mais aussi besoin de dignité, d'amitié, d'espérance et de pardon. Alors dire « Shalom, paix à toi » ne doit donc pas être simplement un souhait, mais devenir un véritable don, que la paix de Dieu vienne réellement en toi. Et cette paix viendra en toi parce que je te donnerai part au souffle spirituel de Dieu qui demeure en moi.
Un fils nous a été donné. On proclame son nom, Prince de la Paix.
Ce texte, qui est un texte d'Isaïe, décrit bien la mission qui était la première mission du Messie, apporter la paix au peuple des fils et des filles de Dieu. L'étymologie du mot français paix, qui est peut-être pâle, n'évoque peut-être que l'absence de chicane dans la mesure où chacun respecte les limites du territoire de l'autre et des limites de territoires qui sont faites par des pâles, des pieux. Au contraire, le mot juif « shalom » qui signifie la paix, décrit, lui, la concorde, la cohésion dans l'harmonie. Il évoque ainsi la réconciliation. C'est parce qu'il est toute miséricorde que Dieu est l'auteur de la paix. Et c'est cette révélation qui avait été faite à Moïse, comme le dit ce texte de l'Exode au chapitre 34.
L'Éternel est clément, miséricordieux, lent à la colère, plein de grâce et d'équité. Il supporte la faute, la rébellion et le péché.
C'est à cause de cette toute puissante miséricorde de Dieu que la fête juive par excellence est la fête du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Toutes les fêtes juives pourraient bien disparaître, dit-on, Kippour demeurerait. Eh bien, en cette fête, la liturgie juive fait lire le livre de Jonas. On sait que le prophète Jonas a été envoyé par Dieu pour prêcher la conversion aux païens de Ninive à cause précisément de la miséricorde divine qui est pour tous et pas seulement pour les juifs. Voici, dans son livre « Dieu et la révolution du dialogue », comment Jean Moutapa décrit la mission de Jonas.
De même que le grand prêtre, à l'époque du temple, était littéralement avalé, dans le Saint des Saints, le jour de Kippour. De même, Jonas a été avalé par un gros poisson. Durant 3 jours et 3 nuits, le prophète demeure là, dans le ventre de l'animal marin, comme pour une gestation dans une matrice féminine. Il prépare dans cette matrice sa renaissance, la reconversion totale de son être. Et cette révolution intérieure consistera à comprendre, à assumer, à porter la miséricorde divine envers tous, les pécheurs comme les justes, les païens comme les israélites. En hébreu, matrice, rehem, et miséricorde, rahamim, ont même racine. Au sein de cette matrice, il pénètre l'infinie puissance de miséricorde, attribut suprême de ce Dieu, dont il n'avait perçu jusque-là que la redoutable justice.
Oui, Jésus lui aussi a passé 3 jours et 3 nuits dans la matrice de la terre, dans son ventre. Son rejet par les puissants de ce monde est le symbole du rejet de l'amour, de la miséricorde par le péché humain, comme une sorte de descente aux profondeurs infernales du mal. Mais Jésus sort vainqueur de ce combat avec le mal par sa fidélité à l'amour. On retrouve là l'image de l'enfantement. La croix et la descente dans les profondeurs du mal est comme une matrice qui enfante un Christ éternellement vivant de la miséricorde divine. Ainsi, il revient porteur de la compassion divine pour tous et pour toujours. En lui, il n'y a et il n'y aura jamais trace de péché. C'est pourquoi Il est le médiateur de la communion entre nous et le Père. Il est le médiateur d'une alliance qui est éternelle, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant, immortel. D'une alliance qu'il sera toujours possible à chacun, chacune des filles de Dieu, de renouveler lorsque par la faute, il l'aura rompue ou détériorée. Jésus accomplit en son être la promesse divine décrite en Ézéchiel.
Je vous donnerai un cœur neuf, et je mettrai en vous un souffle spirituel neuf. Je mettrai en vous mon propre souffle spirituel.
Voilà le fruit de la croix. Parce qu'il a vaincu le mal par l'amour, parce qu'il est vivant pour toujours, Jésus est celui qui peut sauver chacun et chacune, le garder, j'allais dire, en amour. Il s'offre comme le compagnon, porteur de l'amour qui vient de Dieu, comme l'ami qui peut faire vivre de la vie véritable. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Car Jésus même, s'il est vivant, demeure invisible à nos yeux.
L'épisode de l'apôtre Thomas va décrire le mode de relation qui sera désormais celui de Jésus avec ses disciples tout au long de l'histoire. Dans les jours qui suivent Pâques, les apôtres ont expérimenté que Jésus est porteur de résurrection. Souvenons-nous de cet infirme que Jésus, par la voix de Pierre, a fait marcher.
De l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, marche.
Et Pierre s'en explique.
C'est par Jésus crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à lui que cet homme se trouve guéri.
Voilà l'expérience chrétienne en ce qu'elle a de plus fondamental. Celui qui a été rejeté, Jésus, est devenu la source de toute vie. Et il appartient maintenant aux apôtres d'en témoigner pour la suite de l'histoire. La parole de Jésus, transmise de génération en génération, devient la source de la foi. Non pas ce que Jésus réclamerait de ses futurs disciples une foi aveugle, mais parce que la parole de l'Évangile nous fait faire la même expérience que Jésus. Si nous faisons de cette parole la règle de notre agir quotidien. Par elle, toute empreinte du souffle spirituel de Jésus, nous pouvons passer sans cesse de la mort à la vie. La parole de Jésus nous fait ressusciter de toutes nos petites morts quotidiennes. Elle nous fait expérimenter que l'égoïsme nous renferme sur nous-mêmes et nous conduit à la tristesse, alors qu'aimer son prochain est source de joie. Elle nous dit que le doute en l'autre détériore l'amitié et qu'au contraire la confiance fait revivre des liens qu'on croyait morts. Elle nous fait éprouver que le ressentiment et le refus de pardonner ne conduisent qu'à la souffrance, alors que le pardon donné peut apporter la paix à nous-mêmes et la guérison à notre prochain. Ainsi, expérimenter que le don de soi par amour fait vivre n'est pas hors de notre portée quotidienne.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
Le numéro 254-8750. Chers auditeurs, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.